EMCI TV vous présente l'émission Teach avec Atoms. Un temps d'enseignement et d'étude de la parole de Dieu afin de faire de vous des disciples et vous aider à grandir dans votre foi.
Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Vous savez, la parole de Dieu est source de vie, c'est elle notre nourriture qui nous permet de maintenir notre relation avec Dieu et de répandre le parfum de Christ partout où nous allons. Cette émission a été conçue pour nous permettre de comprendre et d'appliquer intentionnellement la parole de Dieu en tant que disciple de Jésus-Christ. Dès le début de cette semaine, on s'est entendu de parler des caractéristiques qui distinguent une église locale, une église de Christ. Comment est-elle si particulière et en quoi? On s'est dit qu'on va parler de 12 choses et on a déjà parlé de près de 6 choses jusqu'ici. Il nous en reste encore une petite autre liste des choses à parler. Et aujourd'hui, préparons-nous à parler des 3 autres choses qui vont s'ajouter sur la liste. Alors, let's teach, grandissons ensemble. Une église locale qui s'est dit être vivante doit avoir appris la nécessité de la prière. Donc, 7e point, permanence de la prière. La prière est permanente. Dans une église locale, la prière est permanente. Allez, comprenez-moi bien, je ne dis pas qu'il y a un endroit qui s'appelle permanence pour la prière. Je me souviens que quand nous, on a commencé la foi, dans les réveils, c'est comme ça qu'on appelait ça dans notre pays, le réveil quand il est arrivé, il y avait cette habitude qu'à chaque église, il y avait un bureau ou une maison, ou même juste le temple en lui-même. On pouvait prendre une petite partie qu'on couvrait avec des nattes et on aimait appeler ça permanence. C'était devenu l'endroit où tous les frères venaient prier, qui passaient toute la journée. Et malheureusement, avec les temps, ça s'est transformé en lieu d'oisiveté, où les gens ne pouvaient plus travailler. Et puis avec un lieu aussi de scandale à cause des relations qui se passaient là-bas. Mais la permanence de la prière devrait être permanente. Cette maison est une maison de prière. Ce rassemblement est un rassemblement de prière. Ça s'appelle une église parce qu'on vient pour prier. Si la prière n'a plus sa place, alors c'est une toute autre forme de rassemblement social. Donner un autre nom, si ce n'est plus une maison de prière, même si c'est beau, c'est bien bâti, si ce n'est plus une maison de prière, même si c'est grand. Pourquoi c'est une église locale? Parce qu'on vient pour communier dans la prière. Lisons quelques textes. Luc chapitre 11, versets 1 à 4. Regardez le maître, Jésus-Christ lui-même, entouré de ses premiers disciples, les apôtres qui sont devenus après. Qu'est-ce qu'ils font? Ils lui demandent là de leur apprendre comment prier. L'église locale, c'est là où on vient pour prier et pour apprendre comment prier. Parce qu'on ne sous-entend pas que quand les gens étaient encore dans le monde, ils savaient comment prier. Dès les premiers jours, ils deviennent chrétiens, ils entrent à l'église, ils savent comment prier. Non, la prière, ça s'apprend. Donc l'église, c'est un endroit où la prière est si permanente que ceux qui sont nouveaux apprennent comment prier. Il y a tellement un système qui permet aux uns aux autres de s'aguerrir en matière de prière. Luc 11, 1 à 4. Un jour, Jésus priait en un certain lieu. Quand il eut fini, l'un de ses disciples lui demanda: « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit: « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui ont des torts envers nous et ne nous expose pas à la tentation. » Les disciples vont voir Jésus et leur demandent: « Apprends-nous comment prier. » C'est ça le climat de la foi et de l'Église que Jésus veut bâtir. Un endroit où certains peuvent apprendre comment prier. Parce que la prière est utile. Matthieu 13, verset 14, il est écrit. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple. Il les guérit. Wow, j'aime bien ça. Ça, Jésus-Christ dit, il vient au temple, il trouve que bon, on a tout mélangé, c'est devenu des ventes de ceci et de cela. Un jour, je reviendrai sur cette affaire. Vous verrez comment cette mauvaise habitude s'est développée progressivement. Au début, les gens ne vendaient pas au temple. Mais puisque les gens venaient de loin, vous savez, Jérusalem, c'est quand même un peu un niveau élevé. Et vous savez qu'en Israël, il y a certaines villes qui sont plus bas que le niveau normal de la mer. Et ces villes-là basses, les gens, pour y monter jusqu'à Jérusalem, ça prenait du temps. Ils devaient monter avec leurs animaux. Progressivement, il s'est créé un commerce où on amenait les animaux dont vous avez besoin pour le sacrifice. On les amenait déjà, ça vous attendait à Jérusalem. Vous avez qu'à amener l'argent et payer. Et petit à petit, un commerce s'est créé autour et le temple est devenu un lieu de commerce, un lieu de vol et des intérêts. Jésus arrive et il est fâché. Il fouette et dit, ma maison est une maison de prière. Dieu dit sa maison. Le lieu où les gens sont venus le rencontrer, ces lieux-là est spécifique pour la prière. Si vous faites toute autre chose sauf prier dans une église locale, je me demande pourquoi vous appelez ça une église. Prier, pas chanter, prier, pas juste faire des déclarations, mais communier avec Dieu, parler soi-même au Seigneur. Et j'aime ce que la Bible dit. À la fin, quand Jésus a chassé tout ce monde-là, les malades sont venus vers lui, il les a guéris. Il a restauré l'utilité du temple. Le temple est un lieu où on prie et les gens amènent leurs problèmes et le Seigneur se manifeste puissamment. Et comme on n'y priait plus, les gens amenaient leurs problèmes et personne ne s'en occupait. Et il montre aussi quelque chose de très facile. Il dit quelquefois, il est très facile que dans une église locale, l'organisation et la systématisation des intérêts, le besoin de résoudre le problème humain peut tuer même la vie de la prière. À l'origine, ce besoin n'était pas un besoin d'intérêt. On a vu juste l'opportunité d'aider les gens. Et derrière l'aide, les intérêts ont commencé à se bâtir petit à petit. Il est possible que notre rencontre sociale provoque des opportunités qui étouffent la prière. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Très simple. Priez sans cesse. C'est ce que Paul dit aux Thessaloniciens. En temps de clôturer sa lettre, il dit de courtes phrases. Il se rappelle des choses importantes qu'on doit dire à tout chrétien. Il leur dit, priez sans cesse. Si vous priez sans cesse dans votre culture, dans votre façon de vivre, pourquoi à l'église vous ne viendrez pas prier? Éphésiens chapitre 6, versets 18 à 20. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'Évangile, pour lesquels je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Paul leur dit, priez les amis, priez. Il leur donne même un sujet d'intercession. Il dit, priez pour moi pour que là où je vais gagner les âmes, je puisse faire cette œuvre avec puissance. Aujourd'hui, on vient dans les églises locales. Les sujets de prière sont tellement centrés sur l'individu, seulement sur vous-même, vos propres besoins, ce que vous voulez faire. Mais Paul leur propose même de prier pour ceux qui vont gagner les âmes. Priez pour rien à manger, rien à boire, rien de cette terre. Priez juste pour que quelqu'un qui a reçu une mission dangereuse d'apporter l'Évangile, le Seigneur l'accompagne, qu'il soit protégé par des anges. Mes frères et sœurs, est-ce que vous priez? Est-ce que cette église est un lieu de prière? Entraîner les gens à prier, ce n'est pas juste leur entraîner à faire connaître leur seul besoin à Dieu. C'est leur apprendre toutes sortes de prières. Plaise à Dieu qu'on en parle un jour. Il existe plusieurs formes de prière. Et la prière, ce n'est pas juste s'étendre là à demander à Dieu. Il existe plusieurs formes de prière. Et l'église, c'est un endroit où on fait ces formes de prière-là. Intercéder, chasser les démons, demander à Dieu, louer le Seigneur, rendre des actions de grâce. Il y a plusieurs formes de prière et l'église est un endroit pour ça. L'église devrait être un lieu de prière, un lieu d'entraînement de prière. Après avoir été à l'église, notre vie de prière devait s'enflammer. L'église n'est pas un lieu où on regarde un spectacle, chacun s'assied. Si tu n'apprends pas à prier à l'église, où apprendrais-tu à prier? Moi, j'ai appris à prier à l'église, pas seulement dans les grandes réunions, même dans les petites réunions de département. J'ai appris à imiter les paroles des autres. J'ai appris le vocabulaire de la prière. Ça vient de moments où vous priez, vous vous taisez, vous entendez l'autre et vous dites amen. Paul même le dit. Il dit quand vous priez, priez dans une langue intelligible pour que, voilà, il dit si vous priez dans une langue inconnue, comment quelqu'un dirait-il amen à votre prière? L'église, c'est l'endroit où on entend les autres aussi prier et on est encouragé par leur prière. Dans ma foi, j'ai grandi avec des hommes de Dieu exceptionnels. Celui qui m'a amené à la foi, qui m'a appris les ABC de la foi, s'appelle Edimpia. C'est un pasteur chez nous à Kinshasa. Et on passait des temps de prier à la permanence, voilà. J'ai appris comment prier à travers lui. Je l'entendais parler à Dieu, répandre son cœur, chanter, prier. Si bien que je commençais à prier comme lui. Bien sûr, au début de ma foi, je priais textuellement comme lui. C'est ça être un disciple. On copie d'abord quelqu'un. J'ai eu le privilège de rencontrer le fait papa Alain Moloto, qui était le fondateur de Gael, qui n'est plus. Quel bonheur de prier avec lui. Combien de fois je ne me suis pas arrêté, j'ai dit, Dieu, tu vois tout ce qu'il a dit là. C'est ce que je voulais dire, mais il a dit ça très bien. Prends ce qu'il a dit sur mon compte. On apprend à prier quand on vient dans un endroit où on prie, on écoute les autres prier. J'ai eu le plaisir de mon chemin se rencontrer avec celui de l'apôtre Roland Dallot. J'étais premièrement choqué quand je suis rentré. Je suis allé, on prie ensemble. Je disais, le grand Roland Dallot, c'est comme ça qu'il prie. Il prie comme un enfant, avec un cœur sincère. Il n'est pas révérent quand il prie. Il est juste quelqu'un qui répand son cœur devant le Seigneur. On apprend à prier quand on est avec les frères et sœurs. L'église locale est un lieu de prière. Ça devrait faciliter cette possibilité de prier. Alors, ça c'était le point 7. C'est le premier point pour aujourd'hui. Le point 8, deuxième point pour nous. La continuité du discipulat. La continuité du discipulat. C'est la huitième caractéristique. Une église locale, pour reconnaître une véritable église locale vivante, c'est une église qui a un système qui permet de faire des disciples. Souvenez-vous, l'ordre suprême, c'est aller dans toutes les nations, faites des disciples. Le discipulat, c'est un processus. Un disciple n'arrive pas juste un seul jour. Il arrive, il donne sa vie à Jésus. Maintenant, vous commencez à le suivre de près pour qu'il devienne un véritable disciple de Jésus-Christ. L'Église n'est pas seulement l'endroit où on prie, mais c'est aussi un endroit où on imite quelqu'un d'autre et on grandit. Ce n'est pas un endroit où on vient juste pour recevoir, c'est aussi un endroit où on vient pour donner. J'aimerais vous défier, frères et sœurs, à vous poser cette question. Depuis le temps que vous avez cru au Seigneur et que vous fréquentez une église, celle-là ou ailleurs où vous êtes, combien d'églises vous êtes passé, je ne sais pas. À quel moment vous avez fait des disciples? Non, mais pasteur, ça c'est la responsabilité du ministère des disciples. Non, c'est pas ça ce que la Bible dit. La Bible dit que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, tu dois prendre dans ta tête la conscience qu'à un moment donné, tu dois partager ta foi et être aussi un exemple à imiter. Quelqu'un peut bâtir la prochaine étape de sa foi en imitant ton exemple à toi. Tout disciple de Jésus est un faiseur de disciples. On ne sera pas tous de grands évangélistes prêchant à la télé, non. On n'ira pas tous dans les rues en train de prêcher tout le monde. Mais si tu viens à l'église, quelqu'un qui vient de venir après toi, qui est plus jeune que toi dans la foi, devrait te prendre toi comme exemple pour grandir. L'église est un système de discipulat. Ce n'est pas seulement la prédication du dimanche, mais il doit avoir un programme, il doit avoir un cursus où ceux qui sont venus à peine peuvent grandir pour rattraper ceux qui étaient là depuis longtemps. Et ça ne peut pas être juste prédication, alléluia, amen, prédication, alléluia, amen. Il doit avoir un système où je suis nouveau converti, c'est à peine que je commençais, je crie au Seigneur, on fait quoi? Il doit avoir un moyen, une prise en charge qui te fait faire les étapes, les ABCD pour que tu puisses grandir. Matthieu chapitre 28. Versets 19 à 20. Je l'ai cité presque tout à l'heure. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Des disciples. Ce que Jésus nous a demandé de faire, ce n'est pas des membres d'église et des fidèles de nos assemblées. Il nous a demandé de faire des disciples. Si c'est une église locale, si c'est une église vivante, comment on fait des disciples? On passe par où pour faire des disciples? Faire des disciples, c'est pas juste voir une classe d'affermissement, une classe de nouveaux bienvenus pour les premières bases. Non, les musiciens sont des disciples. Les intercesseurs sont des disciples. Le protocole sont des disciples. Les serviteurs aux médias sont des disciples. Est-ce qu'ils grandissent? L'Église doit avoir un système qui permet à quelqu'un qui a commencé d'avancer, de grandir, un moment de se sentir mûr, mature et d'être capable de se prendre en charge par lui-même sur certains sujets. Philippiens chapitre 3, versets 17 à 18. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez l'égard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Paul dit, écoutez, dans la vie, là, dans cette affaire de foi chrétienne, il y a beaucoup de choses. Il y a des gens qui se comportent en ennemis de la croix. Et ça me fait mal. Mais vous, imitez-moi. Imitez-nous parce que nous aussi, nous imitons Christ. Faites les choses comme nous le faisons. L'église locale vivante, c'est une église dans laquelle les personnes matures, pasteurs, enseignants, ont l'audace de dire, imitez-moi dans la foi. Waouh, c'est beaucoup de responsabilité. Hein. Chacun de nous a un certain niveau, pas seulement le responsable de l'église, mais chacun de nous a un certain niveau, doit être capable de dire à quelqu'un, imite-moi, fais-le comme je fais, prends mon exemple. Il doit avoir un système où les disciples forment des disciples. Éphésiens chapitre 4, versets 12 à 14. Il a fait don de ses hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi, à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. De cette manière, nous ne serons plus des petits-enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportées çà et là par les vents de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Dans cette affaire de Christ et d'Église, il y a des gens habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Dans cette affaire de la foi, il y a des vagues, il y a des vents sur Internet, il y a des vents dans le milieu d'Église. Vent prophétie, les gens qui sont morts et sont ressuscités. Il y a des vents comme ça dans l'église. Si vous regardez, vous êtes attentifs, vous verrez. Il y a des vagues. Il y a des vagues qui viennent. Mais l'église devait être un endroit qui forme les disciples, pour qu'il soit capable à résister à ces vagues, à ne pas être ballotté. C'est pourquoi je viens de vous lire ici Paul qui rappelle que Dieu a fait des dons à des individus. Il a fait ces individus-là sont devenus des dons qu'il a donnés à l'Église. Apôtres, pasteurs, prophètes, docteurs, ces ministres de la parole sont là pour rendre ses disciples capables de résister à ces vents et de ne pas suivre tout et n'importe quoi. Je vous en supplie. L'Église locale, c'est pour faire des disciples. Et celui qui est fait disciple a la responsabilité de devenir disciple. Quelle est la dernière fois que tu as reçu un enseignement suivi? Un enseignement systématisé? Un point, deux points, trois points. Les gens ont considéré que les enseignements qu'on leur donnait, c'était en réalité des enseignements en vue de participer à un département. Les gens arrivent à l'église. Quels sont les enseignements pour que je commence à servir ici? Affermissement, école d'Apollos, induction, quel que soit le nom que chaque église donne. Et les gens vont à ces enseignements en vue de servir. Et dès qu'il a fini, « Ok, j'ai fini, je veux maintenant entrer à la chorale. » Non, ces enseignements n'ont pas pour but de vous préparer à entrer à la chorale. Ça a pour but de faire de vous des disciples, de vous rendre mature. Et ce n'est pas une dose unique. Ce n'est pas que vous l'avez eu à l'entrée avant de l'avoir. Quels sont les enseignements pour faire le baptême? Une fois que vous avez fait le baptême, vous n'avez plus besoin d'enseignements systématiques. Vous n'avez plus besoin de grandir. L'Église est un lieu de discipula. Pourquoi nous nous plaignons beaucoup ces derniers temps dans nos églises locales? C'est parce que nous avons transformé nos départements, nos ministères en des cimetières. Et dès que quelqu'un a fini la formation pour être baptisé et pour commencer à travailler dans un département, dès qu'il va dans les départements, il va vers sa mort. Parce qu'une fois entré là-bas, il fait plus que servir au lieu de maintenir sa relation avec Dieu. Une fois qu'il est à la chorale, on veut l'entendre chanter, on veut le voir exécuter la musique. On ne sait plus comment il va avec Dieu. Et de là, on ne sait plus quoi lui donner pour qu'il grandisse. Une fois qu'il est à l'intercession, on sous-entend qu'il sait prier, il sait tout. C'est lui qui prie pour l'Église. Et de là, on ne sait plus le faire grandir de là où il est. Ne faisons pas de nos départements d'Église, des cimetières pour la croissance des autres. L'Église doit avoir un système où les disciples grandissent chaque année, où les disciples font aussi d'autres disciples. Nous avons commencé l'Église avec... Quand nous avons commencé l'Église chez nous, on a commencé ça un 6 novembre 2016. C'est là que j'ai commencé à être pasteur titulaire de Phil à Cité d'Exaucement. De novembre jusqu'en début février, j'ai travaillé comme un fou. J'étais l'enseignant principal qui donnait la formation aux serviteurs. Je prêchais aux cultes matinaux. J'enseignais le jeudi à la prière. J'enseignais les dimanches, l'enseignant principal. Vers le début de l'année qui a suivi, ma santé a commencé à se détériorer. J'ai commencé à avoir des menaces d'écouphène à cause de la proximité avec les baffles. J'ai eu des allergies aux acariens à cause de la poussière de notre temple qui est en chantier. Et j'ai commencé à... Mon rythme cardiaque a commencé à baisser après l'électroencéphalogramme qui a été fait. J'ai transpiré pour rien. Ma santé n'allait pas bien. Mais j'avais chaque fois dans mes oreilles quelque chose qui dit... Les frères et les sœurs qui me disaient, « Ah, pasteur, nous sommes vraiment venus dans cette église, nous voulons t'écouter. Ah, pasteur, ah, tu sais, quand tu laisses d'autres personnes prêcher, bon, c'est pas encore comme toi, vraiment, pasteur. On aime bien t'écouter, toi, on est venu pour toi. » Je m'étais laissé avoir. Je m'étais complètement laissé avoir. Par le fait que, le foi, les gens disent une chose sans comprendre eux-mêmes ce qu'ils veulent dire. Ils voulaient juste dire, votre ministère, la maturité qu'il y a, le contenu que vous nous donnez, nous nourrissent et nous font grandir. Mais dans mes oreilles, ça a sonné comme s'ils voulaient dire, on veut t'écouter toi et seulement toi. Et ça, j'aimerais donner un conseil gratuit à tout homme de Dieu. Vous n'êtes pas éternel et vous ne maintiendrez pas l'œuvre comme ça au point de détruire votre corps. Ma famille ne recevait plus le maximum de moi, ni mes enfants, je ne savais pas jouer avec eux. Je ne savais pas être par-ci, par-là avec ma femme. Je restais à la maison, je transférais. J'ai tenté de faire des vacances de quelques jours, mais ça n'allait pas toujours. Je compris que je ne serai pas éternel. Il faut faire des disciples. Et j'ai appris cela à tout le monde à l'Église, à tous les serviteurs de Dieu à l'Église. Dès les premiers jours que vous devez prendre une responsabilité, voici la question à laquelle vous devez répondre. Qui va me remplacer? Est-ce que vous avez fait des disciples? Pour cela, je dis travailler, préparer, faire des disciples, multiplier des gens et préparer l'Église à permettre aux uns aux autres de commettre certaines erreurs, de tâtonner. Si vous vous dites, pasteur, mais moi, je ne connais pas la Bible comme les gens qui nous enseignent les affirmissements là. Et si j'ai enseigné, maintenant j'ai commetté une erreur. C'est ça les disciples là. C'est un cadre où vous tâtonnez. C'est un cadre où vous apprenez. C'est de l'apprentissage. J'ai expliqué ça plusieurs fois. Être disciple, on vient apprendre. N'aie pas peur d'apprendre. Et pasteur, moi je crois que les gens qui nous enseignent à l'enseignement là, ils doivent bien connaître la Bible. Tous les enseignants à l'affermissement ne sont pas des docteurs de théologie. Ils ont appris, ils ont vécu, ils ont compris la vérité, ils ont appris comment appliquer ça comme tu le fais. Alors pose-toi la question, est-ce que je fais aussi des disciples? Est-ce que les disciples là passent à travers moi? Alors, le point 9, ou simplement pour dire le dernier point pour nous aujourd'hui. Neuvième caractéristique, diversité des ministères. Une église locale, c'est un endroit où il devait y avoir plusieurs formes de ministères. Par ministère, j'aimerais d'abord commencer par le ministère de la parole. On en cite 5, bon, vous voulez mettre ça en 4 comme vous voulez, mais on parle d'apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Ce sont les ministres de la parole. L'Église locale est forte, elle est puissante, elle est vivante lorsqu'elle permet toutes les expressions des ministères. Aujourd'hui, avec le temps, la prépondérance du ministère pastoral cause beaucoup de problèmes à l'Église. Au point qu'on pense que pour diriger l'Église, pour servir à l'Église, pour maintenir ou conduire une mission, on doit absolument avoir comme ministère pasteur. Et surtout que les gens considèrent ces ministères comme des fonctions plutôt que comme des onctions, des équipements de Dieu pour un ministère, pour une parole, pour l'accomplissement d'une mission. ils prennent ça plus comme des titres plutôt comme de consécration, des spécialisations de mission. Pour que l'Église locale soit forte, Jésus a donné 5 types de personnes qui sont dedans. Pourquoi fonctionnerez-vous avec seulement un pendant que Jésus a donné 5? Ça signifie quoi? Ça signifie que dans une église locale, la maturité, l'église est vivante lorsqu'on a la possibilité de goûter et d'expérimenter les différents dons, de puiser de cela. Le pasteur à lui seul ne peut pas rendre l'église aussi mature. On a besoin de l'enseignant, on a besoin du prophète, on a besoin de l'apôtre, on a besoin de chacun. Mais je ne suis pas en train de dire que toutes ces personnes sont nécessairement déjà consacrées au ministère. Ils ne sont pas tous nécessairement appelés à l'Église apôtres, prophètes, révérends. Mais quand on remarque leurs particularités, on remarque leurs dons, on remarque leur appel, on éprouve leur ministère, même sans titre, même sans reconnaissance de ministère, l'Église devait jouir de la diversité, de la manifestation de ces différents ministères. L'Église, donc, ce n'est pas enseignement, 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 enseignement. C'est aussi exhortation, édification. L'Église, donc, ce n'est pas exhortation, édification, édification. L'Église, c'est aussi prophétie, manifestation de dons. L'Église, ce n'est pas seulement prophétie, prophétie, prophétie. L'Église, c'est aussi gagner les âmes, avoir le fardeau de la transformation des autres. L'Église, ce n'est pas seulement gagner les âmes, gagner les âmes, gagner les âmes. L'Église, c'est aussi multiplier, affecter le monde par la multiplication des églises et de l'Évangile. C'est aussi la mission sur terrain. Chacun de ces aspects de ministre de la parole, l'apostolat, la pastorale, l'évangélisation, l'enseignement, la prophétie, chacun de ces ministères devrait s'exprimer et se manifester pour la croissance de l'Église. Je vous lis quelques textes. Actes des Apôtres, chapitre 11, versets 27 à 28. « En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, s'éleva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva, en effet, sous Claude. » Vous imaginez? On ne cite ici pas des apôtres. On est dans les actes des apôtres, mais les gens qu'on va citer sont des prophètes. Pas un, des prophètes sont venus à Jérusalem. Et on a parlé d'Agabus qui a annoncé à cette époque-là qu'il y aurait une famine. Et la famine a eu lieu sous le règne de Claude. Vous voyez, l'Église a besoin que différents dons se manifestent. Les apôtres n'en ont pas parlé. Paul n'a pas parlé de cette famine. Quand la famine a eu lieu, alors il y a eu la tournée pour commencer à collecter par-ci, par-là. Mais la famine était révélée comment? À travers un prophète. Actes 21, 8 à 11. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Les 7 ici, les 7 diacres. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, s'est lié les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et les livreront entre les mains de païens. Ici, on voit deux ministères se manifester. Paul, 3 d'ailleurs, Paul l'apôtre qui va chez Philippe l'évangéliste et puis Agabus le prophète qui vient. Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens dehors, mais vous êtes citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. L'Église est bâtie, Jésus-Christ lui-même qui en est le patron, mais les apôtres, les prophètes. Mes amis, l'Église, ce n'est pas seulement sur un seul ministère. D'autres ministères devraient se manifester. À tour de rôle, non. On donne la chair comme si on se partageait quelque chose démocratiquement. Non, sous la puissance de l'Esprit, sous la direction de l'Esprit, différents ministères devraient se manifester. Différents ministères devaient entrer en compte. Que ces gens soient appelés ministres ou pas, qu'on l'appelle frère tel, sœur tel, qu'on les appelle prophètes ou pas, ou évangélistes ou pas, mais ces différents ministères, ce sont eux qui donnent à l'Église son 360 degrés. Jésus qui a créé son Église sait que l'Église ne peut pas survivre à force de manger le même repas. Il faut un buffet, il faut une diversité pour faire grandir l'Église solidement. Puisqu'on parle de grandir, on vient de grandir aujourd'hui, je l'espère. Demain, nous allons alors finir avec le droit dernier caractéristique pour en avoir finalement 12. Pour l'instant, je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Teach sur emcitv.com.